Radio Prague, les informations.
Bonjour, le président de la République soutient une hausse du budget de l'armée. Les syndicats de la chaîne de distribution Tesco prêts à faire grève face à la menace d'un plan de licenciement. Et la biologiste Helena Fulkova devient la première scientifique tchèque à cloner une souris. Le président de la République tchèque, Miloš Zeman, soutient un budget plus élevé pour les militaires et l'armée. Selon ses paroles, l'argent devrait toutefois être dépensé de manière efficace, et ce en particulier dans la lutte contre le terrorisme international. Miloš Zeman l'a fait savoir ce mardi alors qu'il rendait visite au 43e bataillon de parachutistes dans la ville de Chrudim. Le chef de l'État a précisé que cette hausse des ressources devrait concerner toutes les composantes de l'armée qui seront déployées dans des missions à l'étranger pour combattre le terrorisme. D'après Miloš Zeman, ce sont principalement des parachutistes, des forces spéciales ainsi que des drones dont a besoin l'armée tchèque. Les syndicalistes de la chaîne de distribution Tesco ont annoncé être prêts à faire grève et préparer un plan de crise. La société envisage en effet la fermeture d'un hypermarché à Ústí nad Labem, au nord de la Bohême, et d'un supermarché dans le quartier de Smíchov à Prague. 102 personnes sont menacées de perdre leur emploi. La direction de l'entreprise justifie ce plan de licenciement par la forte concurrence dans les zones concernées et par le mauvais emplacement de ces deux magasins. L'information a été communiquée à l'agence de presse Tcheteka par l'organisation syndicale de la chaîne de distribution Tesco. Il s'agit de l'une des plus importantes entreprises du secteur en République tchèque, puisqu'elle dispose de plus de 200 lieux de vente et emploie environ 14 000 personnes. Helena Fulkova est devenue la première scientifique tchèque à réussir le clonage d'une souris. La biologiste a mené cette opération au Japon, l'un des pays pionniers dans ce domaine. Helena Fulkova a expliqué à l'agence de presse tchèque qu'elle a réussi à cloner 6 souriceaux, dont la plupart étaient toujours vivants. Le clonage a été réalisé sur la suggestion d'un collègue pour améliorer un papier qu'ils réalisaient tous les deux. Et c'est également pour cette raison que la biologiste Helena Fulkova s'est lancée dans des recherches autour des souris génétiquement modifié à l'Université de Tokyo. À l'occasion de l'exposition universelle Expo 2015 qui se tiendra en Italie, un environnement interactif recréant la forme d'une forêt et dévoilant le mystère du monde de la flore fera partie du pavillon tchèque. Les auteurs de la société Full Capacity ont présenté ce mardi une partie de l'installation dans les locaux des laboratoires de l'Université technique de Prague. L'installation contient un biotope forêt, des caméras, des détecteurs de mouvement ainsi que des projections. L'exposition universelle qui se tiendra à Milan entre le 1er mai et le 31 octobre, compte avec la participation de près de 138 pays. Et place au sport, à présent, 3 joueuses tchèques de tennis ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale lors des internationaux de Sydney. Lors du second tour de ce tournoi qui précède l'Open d'Australie, Karolína Plíšková a enregistré une nette victoire, 6-0-6-0, face à l'américaine Nicole Gibbs. La deuxième tchèque ayant su se qualifier pour la suite du tournoi a été Barbora Záhlavová-Strýcová, qui a battu l'Australienne Samantha Stosur 7-6-6-2. Et finalement, c'est Petra Kvitová qui a vaincu la chinoise Peng Shuai 6-1-7-5. La numéro 4 mondiale, Petra Kvitová, affrontera en quart de finale l'Australienne Jarmila Gajdošová, numéro 68 et originaire de la Slovaquie. Puis un mot de météo pour terminer. Très bonne fête à tous les Radovan, à l'honneur du calendrier ce mercredi. Le ciel reste partiellement ensoleillé sur l'ensemble du territoire tchèque. L'ouest du pays s'annonce toutefois pluvieux. Les températures aussi entre 5 et 9 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentez Danessa Tomanova. Restez en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Guillaume Narguet pour la suite de notre programme.
Panorama.
Panorama.
La plateforme baptisée Reconstruction de l'État a été créée en mars 2013. Elle réunit une vingtaine d'associations coordonnées par la branche tchèque de Transparency International, l'organisation Frank Bold, qui fournit des services judiciaires, notamment en matière environnementale, et l'ONG anticorruption Relance, au Jivení en tchèque. David Ondráčka décrit le contexte dans lequel l'initiative a vu le jour.
Maintenant, c'était 2 ans quand nous commençons cette initiative. L'idée était travailler ensemble avec beaucoup d'ONG, mais aussi avec le soutien de communautés de business et l'ambassade et aussi médias. Je pense que nous faisons le plan pour avancer avec 9 projets de loi. Et maintenant, pendant 2 ans, nous faisons tout pour forcer ce projet de loi. Et mon idée est que cette initiative avait succès parce que l'agenda de politique a changé un peu. Mais quand nous discutons en détail, bien sûr, c'est plus difficile.
La création de la reconstruction de l'État coïncide avec l'existence du gouvernement de droite de Petr Nečas, formé en 2010, qui a déjà suscité la mobilisation de certains segments de la société civile. En effet, en opposition à la politique d'austérité, l'association Pro-Alt a été créée pour lutter contre les réformes sociales de ce cabinet. En 2013, Pro-Alt figure entre la vingtaine d'ONG déterminées à faire de la lutte contre la corruption une réelle priorité, réduite jusqu'alors aux documents stratégiques.
Il était gouvernement de M. Nečas. Il existait beaucoup de stratégies anticorruption, mais en réalité, toutes les choses duraient vraiment beaucoup de temps et je pense que le gouvernement manquait les priorités. Après, le gouvernement de Nečas collapsé et nous devons changer notre stratégie pour concentrer aux élections et après. Et maintenant, nous avons notre nouveau gouvernement de Sobotka et nous essayons de continuer avec notre campagne.
La chute du gouvernement de Petr Nečas, sombré dans les affaires de corruption et abus de pouvoir et des services de renseignement, a interrompu la première phase de la campagne anticorruption de la reconstruction de l'État. Il a donc fallu repenser la stratégie. Il s'est avéré que les préparatifs électoraux étaient l'eau sur le moulin de cette initiative qui a bénéficié d'une importante couverture médiatique.
Les élections nous donnaient nouveau dynamique parce que vous pouvez discuter avec les candidats pour les fonctions publiques, futurs membres du Parlement. Nous essayons de discuter avec tous les candidats possibles. C'était vraiment difficile de trouver cette candidate, mais aussi s'ouvrir opportunité pour discuter les promesses électorales qui peuvent être réalisées après l'élection.
Un mot donc sur la méthode de la reconstruction de l'État. Ses collaborateurs et bénévoles se sont adressés à tous les candidats en amont des élections législatives anticipées pour solliciter leur signature personnelle attestant le soutien aux 9 lois anticorruption avancées par les ONG. Leur signature, noir sur blanc, est ensuite devenue un moyen de pression sur ceux ayant signé et un instrument de dénonciation des candidats ayant refusé de se joindre à l'initiative. Ces derniers étaient pointés du doigt dans les documents produits par la reconstruction de l'État, avec comme point culminant l'envoi de la liste des candidats ayant signé le manifeste de l'initiative dans plus d'un million de boîtes aux lettres. David Ondraczka remarque.
Nous avons collecté des signatures des candidats pour le Parlement et maintenant nous pouvons discuter avec lui que signifie cette promesse électorale et comment avancer dans ce projet de loi. Je pense pour les hommes politiques, c'est vraiment difficile de refuser de discuter avec quelqu'un qui a signature de cet homme avant l'élection.
Les critiques de cette méthode mettent en garde contre une individualisation de la politique, outrepassant les partis politiques ainsi que des clivages d'opinion. Les organisateurs, à leur tour, saluent son efficacité.
J'espère que cette individualisation va contribuer à l'amélioration de la culture politique. Individuellement, ils sont responsables pour les actions. Mais Je dois aussi dire que quelqu'un député avait réacté avec agression et avec allergie, je pense. Il n'aime pas ce projet et ce sujet. Pour beaucoup de gens, la construction de statues est quelque chose de très agressif. Et maintenant, nous devons discuter et réfléchir. Comment continuer et comment faire le deuxième plan pour cette initiative?
La forte médiatisation de la reconstruction de l'État a contribué à ce que les politiciens s'en saisissent pour gagner des points politiques. L'initiative est devenue quasi incontournable. Résultat, après les élections anticipées, 150 sur 200 députés étaient signataires du manifeste de la reconstruction de l'État, un succès que David Ondráčka attribue en partie à la chance, au bon marketing et à la méthode innovante qui combine un travail des experts rédigeant des projets de loi, du lobbying dans l'espace public et d'activisme local dans la collecte des signatures. Néanmoins, ce début de l'année 2015, la dynamique dont a pu bénéficier la reconstruction de l'État s'est enlissée et le président de Transparency en est bien conscient.
Mon impression est que dans notre société, maintenant, cette vague d'anticorruption a terminé. C'est réalité, peut-être réalité triste un peu, mais je pense que beaucoup de peuples sont fatigués avec beaucoup de scandales, beaucoup de fraudes et ils vont concentrer à quelque chose d'autre. Et dans cette situation, nous devons vraiment faire bon plan pour continuer notre initiative.
La reconstruction de l'État se trouve donc sur un carrefour et doit décider de la forme que prendra son activité à l'avenir. Elle entre dans cette phase de réflexion après une année 2014 de mobilisation intense, quand le défi principal a été de faire la réalité des promesses électorales. Cela impliquait un suivi constant des travaux à la Chambre des députés. Ils ont également sollicité les ambassadeurs étrangers basés à Prague, parmi eux l'américain et le français, pour appuyer le projet au moment des rencontres informelles avec les politiciens. Enfin, ils ont poursuivi leur campagne médiatique financée par les entreprises partisanes de leur cause. David Ondráčka évoque une des difficultés auxquelles les organisateurs de la campagne étaient confrontés tout de suite après les élections.
Nous avons beaucoup de députés qui sont nouvelles dans le Parlement. Nous avons partis nouveaux, mais aussi députés qui sont nouveaux dans ce système. Et ils commençaient avec sujet de politique. Ils devront apprendre ce système, comment ça fonctionne. Au début, il existe certain enthousiasme. C'est facile, nous faisons ça ou ça. Mais après trois mois, beaucoup de gens réalisent que c'est plus compliqué. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont cachés un peu. Il existe lobbying et contre ce projet de loi. Tout le monde doit faire quelques compromis. C'est réalité. Mais je pense qu'au début, il existait certain enthousiasme.
Après cette année d'efforts pour faire passer 9 lois anticorruption, David Ondráčka en fait le bilan.
C'est comme au tennis, nous avons gagné 3 games, perdu 6, je pense maintenant. Mais sérieusement, je pense que cette initiative a succès, en général, parce que nous avons défini certains agendas pour les politiciens. Nous avons fait priorité pour concentrer le travail législatif. Mais quand nous discutons les détails du projet de loi, bien sûr, nous voulons plus. Il y a beaucoup de résistance contre cette réforme. L'administration publique, le ministère sont parfois contre ce changement et ce projet de loi. Je suis réaliste. Je pense que après un an, nous devons être raisonnables et nous devons continuer le travail. Parce que c'est pas si facile comme quelqu'un imagine.
Les 3 jeux gagnés, c'est en premier lieu l'adoption de la loi qui abolit les actions d'entreprise aux propriétaires anonymes. Votée encore sous le gouvernement de Petr Nečas, cette mesure visait à rendre transparente la structure de propriété des entreprises qui participent notamment aux appels d'offres publics. Deuxièmement, la Chambre des députés a approuvé la modification de ses règles de procédure. En pratique, elle a donc aboli les prilepki, c'est-à-dire des ajouts à la loi, qui n'ont pas de rapport thématique au texte en question et qui permettaient de faire voter des mesures législatives controversées à l'abri des regards. Dernièrement, David Ondráčka salue également l'élargissement des compétences de l'Office de contrôle suprême. Même si la loi ne correspond pas à celle proposée par son initiative, laquelle énumérait les institutions qui relèvent de son contrôle, David Ondráčka est satisfait car la version retenue permet à l'Office suprême de contrôle d'examiner toute opération avec l'argent public. À ce trio pourrait s'ajouter un quatrième projet, une loi obligeant l'administration de publier les contrats en ligne. Néanmoins, certains députés voudraient exclure du champ d'application de la loi les entreprises d'État. La réaction de David Ondráčka est la suivante.
Dans ce sujet, je pense que vous devez toujours faire compromis. Mais pour moi, le plus important est que l'administration publique, je pense, agence centrale, mais aussi localité municipale, ont obligation pour donner tous les contrats sur Internet. Pour les entreprises grandes, comme Chess et beaucoup d'autres, je peux imaginer certaines exceptions parce qu'ils faisaient business compétitif avec beaucoup de compétiteurs au marché. Mais nous pouvons trouver une solution avec d'exceptions raisonnables qui aident la transparence, mais qui ne ruinent cette chance pour succès au business.
En revanche, une autre loi, celle sur la fonction publique, qui viserait sa dépolitisation, a déjà été adoptée et David Ondráčka ne la considère pas comme un succès. Fruit d'un compromis entre les partis de la coalition gouvernementale et les partis de droite, la loi a supprimé une direction chargée de superviser la fonction publique et a maintenu des adjoints au ministère nommés par les partis politiques.
Je suis un peu déçu parce que ce n'est pas vraiment satisfaction. Il y a beaucoup de compromis qui, nous pensons, ne sont pas nécessaires. Je suis déçu parce que je pense pour toute la réforme de l'administration publique, cette loi, c'est plus important. Mais le sujet de dépolitisation de l'administration publique est vraiment fragile et pas clair.
Enfin, le projet le plus mis en danger est celui qui vise à assurer l'indépendance du parquet. Une première version du texte a été révélée par le ministère de la Justice et a provoqué une vague de critiques auxquelles souscrit David Ondráčka.
Nous discutons de vraie indépendance de procurateur. Je pense que c'est vraiment critiquable pour l'investigation de corruption et le crime financier. C'est quelque chose qui est ouvert. Nous devons discuter avec le gouvernement, avec le ministère de Justice, comment peut-être changer ce projet de loi pour être progressif. Si cette le projet de loi est accepté comme toujours. Nous pouvons être plus beaucoup de contrôle de politique sur l'investigation, mais plus important, le ministère de Justice peut nominer la position de plus importante dans cette structure de procurateur.
La question du financement des partis politiques reste encore à être abordée, ainsi que l'obligation pour les politiciens détenteurs d'un mandat de publier en ligne leurs déclarations sur propriété. David Ondráčka estime que beaucoup est à faire pour la coalition des ONG qui se sont désormais imposées comme acteurs politiques ou bien, comme il préfère de le dire, des lobbyistes dans l'intérêt public sans attirer des réactions unanimement positives.
C'est normal pour être critiqué et quand vous travaille dans le domaine public avec initiative comme ça, c'est légitime. Mais je pense que notre légitimité, que nous représentons beaucoup d'associations de société civile, beaucoup de gens, beaucoup de supporters, nous travaillons avec business, avec médias, avec ambassade, et ça fait quelque chose de grand qui nous donne légitimité pour parler avec politiciens. Je pense que la politique aujourd'hui est une chose compliquée. Alors, il y a beaucoup des acteurs qui peuvent faire quelque chose de politique. Et ce n'est pas seulement les hommes politiques professionnels et les partis politiques. Alors, la situation a changé et nous sommes au 21e siècle et les ONG ont cette place dans cette discussion.
Et les membres de la reconstruction de l'État n'ont pas dit leur dernier mot.